Jésus leur dit, « Pour moi, voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous, donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Chaque fois que vous recevez la bénédiction du prêtre, vous savez, il lève d'abord les mains et il vous bénit. Signe de l'ascension. On vit du cœur ressuscité du Christ à la messe. Et puis, levant les mains, il vous bénit. Vous vivez de l'ascension et il faut absolument ensuite, après la messe, vivre de descendre du Saint-Esprit sur vous. Hein? Les signes liturgiques manifestent ça. Or, tandis que dans le moment où il était en train de les bénir, il fut enlevé d'auprès d'eux. C'est au moment où il est en train de les bénir qu'il est enlevé d'auprès d'eux et fut enlevé au ciel. Cette apparition-là, qui est la dernière apparition des apôtres, avant, il y a eu plein d'autres apparitions. Il y a eu l'apparition en Galilée, il y a eu l'apparition avec la multiplication des poissons, 153 poissons, il y a eu l'apparition à Thomas, il est venu une semaine après l'apparition à Thomas, c'était une semaine après l'apparition aux apôtres quand Thomas n'était pas là, c'est une semaine après Thomas arrive. Donc on ne peut pas dire que l'ascension c'était en même temps que l'instant de la résurrection. Dans l'évangile de Saint-Luc, on voit bien que c'est donc la dernière apparition. Et ensuite, donc vous voyez bien que la résurrection et l'ascension, ce n'est pas au même moment. Hein? Il y a 40 jours entre les deux. Et on le sait grâce aux actes des apôtres que c'est 40 jours entre les deux, parce que on sait que c'est 10 jours avant la Pentecôte grâce aux actes des apôtres. Alors on sait que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Exactement. Oui. Donc grâce à ça, on sait que c'est... Jésus a célébré la Pâque 3 jours avant les... trois jours avant les Juifs, donc au total, ça a duré 7 jours, si vous voulez, entre l'ascension et la Pentecôte. Mais comme la Pâque a été célébrée par Jésus 3 jours avant la Pâque officielle, ça fait total 50 jours. Voilà. Hein? Saint-Luc fait le récit de l'ascension dans son évangile et dans les actes des apôtres, mais les deux récits diffèrent sensiblement, puisque dans l'évangile, il situe l'ascension le jour même de la résurrection, à la suite de l'apparition des pèlerins d'Emmaüs. Pas du tout, vous voyez. Hein? C'est vrai qu'il y a l'apparition des pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile de Saint-Luc. Vous voyez. Il y a les pèlerins d'Emmaüs, puis ensuite, eux, eh ben, ils sont obligés de revenir à Jérusalem. Mais dis donc, il en faut des jours de marche, dis donc, pour aller à Jérusalem, pour en partir. Vous connaissez la distance qu'il y a entre Jérusalem et Emmaüs? C'est pas mal, hein, à pied, hein. Et donc, ils sont revenus, et Jésus revient, tandis qu'il parlait encore aux apôtres. Mais combien de temps ils sont restés avec les apôtres, hein, pour raconter tout ça? Vous voyez? Et puis, ensuite, Jésus réapparaît aux apôtres. Et ensuite, verset 43, verset 44, puis. Ah, c'est un autre moment. Puis. Je reconnais qu'en français, c'est un autre moment. C'est pas caille, hein, c'est puis, après. Donc c'est une autre fois encore qu'il donne la dernière instruction. Et on le sait grâce aux autres évangiles. Puisque déjà, Saint-Luc lisait l'évangile de Saint-Matthieu et de Saint-Marc qui était écrit avant lui. Et donc, toutes les apparitions de Matthieu et de Luc, où on voit que c'est en Galilée, on voit que c'est en été entre les deux. Donc, ça ne fait aucun doute, d'après la Bible, que ce n'est pas au moment de... L'ascension n'a pas eu lieu au même moment que la résurrection. De toute façon, ça, on le sait bien. Hein? Voilà. Mais c'est bien de poser ces questions-là, parce que ça... Ça nettoie le terrain, si on a ça dans la tête, hein, il y a plein de choses qu'on ne comprend plus, qu'on ne peut plus vivre. Alors, comprenez comment pour nous c'est important de vivre de la charité. Le troisième moment après la Pentecôte, ça y est, la charité est là. Vous sentez bien que ce qui domine dans la maternité divine de Marie, c'est la foi pour l'incarnation. Ce qui domine dans la maternité de Marie, c'est l'espérance dans la croix glorieuse. Et après l'ascension, ce qui domine, c'est la charité, quoi. Puisque elle doit aimer, compléter et absorber, assumer l'amour fragile des apôtres, de tous les disciples de Jésus. Vous comprenez? Donc c'est une charité complètement incroyable. Son cœur a été brûlé par la charité avec Jésus. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui revenait de qui est venu me voir dans mon ermitage il y a quelque temps, là, il n'y a pas longtemps, et il revenait de Yougoslavie, un endroit où la Vierge apparaît par ici. Bon, de toute façon, elle apparaît partout. Bon, moi, à chaque fois que je dis « Je vous salue Marie », apparition intérieure. Ce qui est beaucoup plus fort qu'une apparition à 7h moins 20, c'est beaucoup plus fort. Sans comparaison, hein. Devant Dieu, c'est plus fort. Non, moi non plus.
Non, mais j'ai pas entendu.
J'avoue que j'entends bien le tracteur aussi. Les apparitions, elle en fait tout le temps, chaque fois qu'on fait un véritable acte de foi. Mais c'est une véritable apparition. C'est plus qu'une apparition. Vous comprenez de même que les apôtres ont vu Jésus dans une apparition qui leur était extérieure. C'était infiniment moins que l'apparition de Jésus à Marie à la résurrection, qui était une apparition toute intérieure. Mais quand même, les apparitions extérieures de Jésus aux apôtres, les sept grandes apparitions, les sept grandes manifestations de Jésus ressuscité, nous montre visiblement ce qui s'est passé invisiblement et au centuple, au milluple, si vous voulez, dans la grande apparition qui a duré ces 40 jours pour Marie. Jésus est apparu pour Marie. C'est son épouse, il l'a dit, c'est sa femme. Et quand tu épouses quelqu'un, tu es tout à elle. Le feu est là. Alors, quelquefois, il y a des petites brindilles qui sortent du feu. Ça, c'est les apparitions, ça du tout. Mais le feu... La résurrection et l'apparition, elle est en Marie, évidemment. C'était... Oui.
La résurrection, est-ce qu'il a été visible en permanence ou que par épisode, à une personne ou une autre,
c'est pas par épisode, comme un feu. L'apparition était permanente pour Marie, et puis de temps en temps, une étincelle qui sort, clac, et hop, tu vois une étincelle là. Puis le feu est tranquille, après, une autre. Sept manifestations, sept d'après l'écriture, c'est tout. Il y a des moments différents. Vous dites d'après les apôtres?
Ah
non, oula, pas du tout, non. Vous n'avez qu'à relire Marc, Matthieu, Luc, Jean, vous verrez. Que ça dure longtemps, ils sont obligés de ramer, de reprendre la barque, d'aller pêcher, etc. Ça dure longtemps, toute la nuit, ils ne prennent rien. Enfin... Donc c'est ce feu qui brûle. Et d'un seul coup, ce feu qui brûle le cœur transforme le cœur immaculé de Marie qui était carbonisé, j'allais dire, par le mystère de la croix et de la souffrance. Transforme ce cœur immaculé de Marie, en braise ardente, il était rouge feu, mais le feu, d'un seul coup, part. Jésus monte dans l'ascension, mais le cœur immaculé de Marie est encore une braise ardente. Et elle a reçu gratuitement, elle doit donner gratuitement, mais le feu est parti, vous voyez la soif folle. Mais du coup, il faut quand même que ce feu brûle les cœurs des apôtres, qui s'unissent à son cœur à elle, dans une unanimité. Total.
parce que c'est à eux, du coup, de refaire l'acte foi, de pénétrer dans, dans Jérusalem, au cœur de Jérusalem, dans le Cénacle, et dans le Cénacle, juste aller accéder jusqu'à la chambre haute, la chambre de celle qui a conçu, jusqu'au mystère de l'Immaculée Conception, lequel, vous voyez, il faut qu'il brûle là-dedans, et elle, il faut que par son silence, elle attire les apôtres dans son cœur, et que leur cœur des apôtres soit, eh bien, cet homme qui est passé me voir dans l'ermitage, il monte dans mon ermitage, il venait de Medjugorje. Et c'est marrant, depuis que je suis à Medjugorje, j'ai reçu à l'intérieur une apparition à l'intérieur. Je me suis dit, ça m'intéresse. Il dit, oui, j'ai reçu une apparition à l'intérieur de moi. C'est qui était apparu? Il m'a dit, c'est Dieu le Père. Il ressemblait à quoi? Eh bien, justement, à rien, puisqu'il est invisible. Ah, ouf, trop bien. Et depuis, eh bien oui, je lui dis, depuis, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, il me dit, depuis, mon cœur brûle. Et la chaleur, ça fait quelquefois, c'est trop chaud. Mon cœur brûle. Et vous savez, je l'ai cru. Parce qu'au moment où il me disait ça, mon cœur commence à brûler à moi. Ça faisait chaud. Et à chaque fois que je pense à ce garçon, à chaque fois, mon cœur brûle. Vous voyez, c'est extraordinaire la charité fraternelle. C'est en tout petit, ce qui se passe dans le Cénacle avec les apôtres et Marie. Vous comprenez, c'est ça la Pentecôte. Hein. C'est pour ça qu'on aime tellement, même si humainement, quelquefois, on n'aime pas pour qu'on se force pour venir entre nous prier. Hein, mais parce que le vieil homme est toujours là, hein, quand même, c'est sûr. Le vieux pêcheur qui est là, qui rame. On vient quand même, mais finalement, on comprend, on sait que c'est là qu'on va trouver l'amour, qu'on va trouver la lumière, qu'on va trouver son identité, qu'on va trouver sa vocation, qu'on va trouver son élévation, qu'on va trouver son épanouissement, qu'on va trouver l'amour, qu'on va trouver la charité, qu'on va trouver une charité inextinguible, qu'on va trouver au fond la béatitude. Et que si on ne le fait pas, notre amour, il sera frelaté. Ce sera un amour d'ermite, pas plus, quoi. Enfin, pas beaucoup plus. Juste les 7, 8 premiers degrés de l'amour, mais alors les 20 ou 30 autres degrés, on ne connaît pas, quoi. La profondeur de l'amour, quel dommage. Quel dommage. Et on sait que c'est ensemble, c'est à travers la charité fraternelle, parce qu'on se met dans l'unanimité avec Marie, et on dure avec elle, par cette manière de prier de Marie, ensemble. Vous voyez, quand vous êtes tout seul, même si vous êtes tout seul dans un ermitage, par exemple l'épouse, son ermitage c'est quoi? C'est son époux. L'ermitage de l'épouse, c'est l'époux, si vous êtes marié. Ton ermitage, t'es ermite, ma pote. Si tu vas te rentrer dans le mariage à partir du 15 juillet, à partir de ce moment-là, tu deviens ermite. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. J'espère que vous vous rappellerez par cœur. Et ton ermitage, c'est ton époux. C'est l'amour de ton époux. C'est là que tu habites, un ermitage extraordinaire, d'une pauvreté. Fabriqué avec de la glaise. Et c'est pas de la glaise vierge, hein, c'est de la glaise boueuse. Et tu vis en ermite là. Dès que tu n'es plus ermite, tu es infidèle par rapport au mariage. C'est très important ça. Mais je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Mais même quand vous êtes seul dans un ermitage, eh bien, il faut absolument que vous viviez de cet amour-là. Alors comment est-ce que je fais oraison? Et alors quand je fais oraison, je suis toujours seul. Et c'est vrai que dans le mariage, je vais faire oraison en habitant le corps de mon époux et son cœur. C'est ça mon ermitage principal. C'est là où mon oraison sera la plus forte du point de vue de la puissance de Dieu. Et que le don du Saint-Esprit sera tiré, parce qu'il y a le sacrement, et c'est ta mission, et c'est ta prédestination. Et c'est là que ça se trouvera. dans la disponibilité à 100%. Sans condition. Sinon, t'es infidèle. Et l'infidélité est une matière grave. C'est un adultère. Et mystiquement, c'est un adultère. Ben, quand je fais oraison que je suis seul, eh ben, il faut que, ce que disait donc le fameux père d'eau, qui était ce dominicain extraordinaire, qui était un saint, qui est mort en 1950, je crois, aveugle, il était aveugle, il était devenu dominicain. C'est lui qui a fait revenir saint Thomas d'Aquin dans l'ordre de saint Dominique. Les dominicains avaient laissé tomber saint Thomas d'Aquin, alors que c'est la mission des dominicains. Et c'est le père Thomas Théo, cet aveugle, et qui disait, ben, unanimiter perseverantaire cum Maria orapante apostoli. Les apôtres, donc tu es tout seul, et tu rejoins par ton cœur. Ta prière, elle est pauvre, elle est seule, donc tu rejoins, elle est assoiffée, elle est dans la foi, elle est dans la pauvreté de l'espérance. Et du coup, tu rejoins sur la surface de la terre tous ceux qui sont en train de prier quelque part, qui sont des diamants d'amour du point de vue de la prière, alors ton cœur est sec. Tu rejoins toutes les prières de l'Église, tous ces cœurs. Quelquefois, quand on est prêtre et qu'on confesse des gens, on les voit passer les uns après les autres, et il y a des gens qui sont des saints, il y a des pénitents qui sont d'une sainteté éblouissante. Parce que l'humilité est tellement incroyable que eux-mêmes ils le voient pas, et le prêtre voit. Il y a des secrets comme ça qu'il sait, et il découvre des abîmes de sainteté à travers quelqu'un qui se confesse, tout en étant très 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 humble, une prière très humble et une sainteté totale. Et quelquefois ces secrets sont donnés au prêtre. Le prêtre, bon, et il garde ça, et puis ensuite il le dit aux autres. Une fois que cette personne-là n'y est pas dans l'assemblée, hein? Mais c'est vrai, on découvre des âmes d'une pureté, des cœurs d'une pureté, des saints extraordinaires qui s'ignorent, mais qui n'ignorent pas la grâce qui leur est faite. Et sur la terre, vous ne pouvez pas savoir, il y a des saints étonnants, d'une pureté, d'une brûlure dans l'ordre de l'amour, très extraordinaire. Donc, quand je suis tout seul dans mon ermitage, mon cœur n'est pas brûlant du tout, je suppose, je fais l'acte de foi vis-à-vis du bon Dieu, et puis je rejoins, je vais au-delà de la résurrection, et ça me permet de rejoindre tous ces cœurs qui sont en train de prier, en ce moment, dans cet instant, et je me mets dans l'unanimité avec eux, je me mets dans leur cœur, dans tous ces cœurs-là. C'est tous les apôtres des derniers temps. Et nous nous soudons ensemble, je me soude à eux. Et nous sommes tous soudés, curieusement, dans le cœur immaculé de Marie qui est royale. Et nous durons, et je dure de cette manière-là. C'est à partir de la charité fraternelle que je vis de la résurrection dans l'oraison, de l'ascension dans l'oraison, la Pentecôte dans l'oraison. C'est de cette manière-là, si vous voulez, une voie d'accès. Et on voit bien que c'est une voie d'accès qui finalement est très simple. À ce moment-là, vous participez à l'enfantement de l'Église qui a eu lieu à la Pentecôte à partir de la maternité glorieuse de la Bienheureuse Vierge Marie, glorieuse par son cœur. Et à chaque fois qu'il y avait... À chaque fois qu'il y avait une survenue de l'Esprit-Saint, à chaque fois la croissance de l'Église s'opérait. C'est magnifique de lire les actes des apôtres. sous cette lumière-là et d'interpréter chaque parole des actes des apôtres en fonction de cette lumière-là. À ce moment-là, les actes des apôtres prennent un éclairage prodigieux. Comme on a essayé de le faire un petit peu tout à l'heure, en prenant un peu, vous voyez. Ils montent à Jérusalem, au milieu de la cité, puis la synagogue, puis la chambre. À ce moment-là, on commence à comprendre ce qui se passe. Et ce qui s'est passé avec Marie, avec l'Immaculée, c'est que, du coup, il a fallu qu'elle aille jusqu'au bout de l'Église, jusqu'au bout des membres, prendre tous les cœurs des hommes, au fur et à mesure, jusqu'à la dormition. Jusqu'à la dormition. Et il a fallu qu'elle prenne mon cœur à moi. C'est Père Patrick, c'est là où ça lui a pris peut-être le plus de temps. Mais vos cœurs à vous, le cœur des apôtres des derniers temps, là où elle était, pendant ces quelques années qui ont séparé l'ascension de la dormition, il a fallu qu'elle rejoigne tous les cœurs, mais de manière physique, ce qui lui était possible, puisqu'elle était déjà glorifiée dans son cœur, pas dans son corps. Et son cœur devait brûler et attirer en elle pour que tous les élus et prédestinés puissent vivre cette unanimité avec tous les apôtres, avec tous les saints. Et lorsqu'elle a épuisé toutes les formes d'amour possibles de tous les êtres humains sans exception jusqu'à la fin du monde, elle a atteint le degré suffisant d'affinité avec la charité du Christ, de Jésus. Sa charité n'a cessé d'augmenter à Marie. Et c'est comme ça que le feu s'est répandu sur la terre. Et une fois que son cœur immaculé a atteint le même degré d'affinité dans l'ordre de l'amour que le cœur de Jésus ressuscité d'entre les morts assis à la droite du Père, à ce moment-là, ça a été possible. Grâce d'affinité, ça veut dire que c'était complémentaire par rapport à Jésus. La charité de Jésus, je ne sais pas si vous voyez. De survenu de l'Esprit Saint, survenu de l'Esprit Saint. C'est-à-dire tous les temps, tous les lieux, toutes les demeures de l'union transformante dans tous les chaque être humain particulier, tous en même temps. Et non seulement ça, mais aussi tout ce qui correspond à la glorification du monde animal, tout ce qui correspond à la glorification du monde végétal, tout ce qui correspond à la glorification du monde cosmique. Il a fallu qu'elle aille jusque-là. Et tout ça, ça a brûlé dans son cœur, même si ça, par exemple, n'a jamais ressenti. Mais ça a brûlé. Ça a quand même brûlé dans son cœur, et l'acte de cette brûlure lui sera obtenu en son temps, moi aussi. Mais j'ai déjà brûlé dans le cœur immaculé de Marie dans ce temps extraordinaire de la Pentecôte jusqu'à la dormition. Et à ce moment-là, la charité, c'est extraordinaire d'acte de foi en acte de foi toujours plus grand. Plus tu fais un acte de foi, la fois suivante tu fais un acte de foi une heure après, si tu le fais avec toutes tes forces, nécessairement il va plus loin. Si tu fais un acte d'espérance, toutes tes forces, tout ton ta foi, ton énergie, ta pauvreté, etc., il va nécessairement plus loin que l'acte de foi précédent. Et si tu veux également un acte de charité, c'est-à-dire unanimité, persévérante, comme Maria Orabante, pour que l'amour brûle tout en toi, à travers ton cœur, et oups, du coup ça se répand sur ceux qui sont autour de toi, si tu le fais avec toute la ferveur, ta charité augmente nécessairement. La charité ne peut pas diminuer. C'est impossible. Que la charité, donc, c'est une opération divine, et Dieu n'est pas une cause diminuante. Donc, et pour Marie, elle a cessé à chaque instant d'augmenter, d'inouïe, de survenu en survenu, de nativité en nativité, jusqu'au moment où son cœur élargi a dépassé les limites, j'allais dire, du temps et de l'espace, de tous les êtres humains, de toutes les soifs d'amour qui sont dans le cœur incarné de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Lui, Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, sa charité n'a pas augmenté. Il était déjà au sommet dès le départ. Donc, j'allais dire, il a fallu que Marie, vous voyez, et qu'elle arrive au même degré d'intensité de la charité que Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée au même degré d'intensité, c'est pas du tout le même amour, parce que Jésus, il aime avec un cœur masculin, c'est le nouvel Adam, entièrement brûlé par l'Esprit Saint, et Marie, avec un cœur féminin, entièrement brûlé par l'Esprit Saint. Alors, à ce moment-là, quand elle est en affinité, c'est ça, la grâce d'affinité. Parce qu'elle est en affinité, elle est complémentarité, et ces deux cœurs brûlants peuvent s'épouser, et à ce moment-là, il y a la possibilité de la dormition. C'est que du coup, son cœur ne peut plus augmenter dans la charité. Et donc, son dernier acte de foi, la dépose, c'est ça le mystère de la dormition. Son dernier acte de foi la met dans la même intensité de charité que le Christ ressuscité assis à la droite du Père. Et du coup, il ne reste plus que cette charité. Il est impossible de faire un acte de foi supplémentaire et ni un acte d'espérance supplémentaire. Et donc, elle touche le voile et c'est pour ça qu'elle dort totalement dans son humanité sainte. C'est la dormition. Il n'y a plus que l'amour nuptial entre elle et Jésus. Et à partir de ce moment-là, se passe ce qui se passe au chapitre 21 d'Apocalypse. Se passe la grande naissance, la grande conception, pardon, de la Jérusalem céleste. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Marie, quand elle est là, à partir de cette matière extraordinaire, cette créature, en affinité, épouse, quant à son cœur, quant au degré de sa charité de Jésus, qui lui est dans la gloire, le Verbe, le Père et l'Esprit Saint décident de prendre cette matière-là, qui reste quand même d'une glaise vierge. Et à partir de cette glaise vierge, et du nouvel Adam ressuscité d'entre les morts, il crée Marie. Il recrée Marie. C'est un ciel nouveau, c'est une terre nouvelle, c'est une recréation telle qu'elle est dans la dormition, ça n'a plus rien à voir à ce qu'elle est dans l'instant d'après dans l'Assomption, plus rien. Pourtant, il y a un seul instant qui les sépare. Et de mère, il n'y en a plus.
C'est sa glorification.
Oui. Vous voyez le passage de la dormition. La dormition, elle est encore là, sur la terre, mais entièrement dans l'instant, j'allais dire, elle n'est ni morte, ni vivante. Son âme spirituelle incarnée est totalement arrachée à cette terre, tout en étant quand même collée à cette terre, puisqu'elle y est. C'est pour ça qu'on la voit là. C'est pour ça. On dit qu'elle n'est pas morte et en même temps qu'elle est morte à la dormition. En fait, elle est dans l'amour qui est aussi fort que la mort, à la charité d'affinité. Donc elle est dans un amour qui est plus fort que la mort, qui est aussi fort que la mort, qui est plus fort que la mort. Si bien qu'elle connaît la mort, mais qu'elle reste là. C'est une dormition, quoi. C'est mystérieux, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de là que l'acte, il va y avoir un nouvel acte créateur de Dieu. Et voici que Dieu décide de créer toute chose nouvelle.
ce que dit l'Apocalypse. Voici que je vais faire toutes choses nouvelles. Et si une nouvelle terre, un nouveau ciel. La vie spirituelle de Marie, un nouveau ciel, est tout à fait différente après l'Assomption, à l'Assomption, par rapport à la Dormition. Et sa vie corporelle est tout à fait autre chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est assumée dans l'éternité glorieuse du corps ressuscité du Christ et elle habite l'omniprésence avec son corps physique. Et pour que son corps physique habite tous les lieux et tous les temps sans que ces lieux et ces temps ne la voient, il faut vraiment que son corps physique trouve une nouvelle modalité totalement différente de ce qu'elle avait. Parce que quand elle était à Éphèse, là, dans son dernier soupir du Saint-Esprit, elle était là, on la voyait. Et c'est une recréation. C'est ça l'Assomption. Elle est assumée et transformée. C'est une transglorification. Et comprenez qu'à partir de ce moment-là, ceci se fait en raison de son dernier acte de foi. Voilà ce que produit son dernier acte de foi qui rentre donc dans l'intelligence incréée du Christ ressuscité et qui du coup décide de s'y mettre comme à Cana. Son acte de foi à Cana est rentré dans l'intelligence de Jésus qui était à la table des noces et du coup il décide de commencer la révélation de son mystère. Et c'est son acte de foi à Marie qui a encore pénétré que Jésus a intégré dans son conseil incréé éternel pour décider de faire toutes choses nouvelles et d'assumer et de retransformer et de recréer dans un nouveau ciel et une nouvelle terre l'Immaculée Conception en étant une seule chair glorieuse avec lui dans l'omniprésence physiquement, cordialement, spirituellement, humainement. C'est fou, c'est génial. Et ça, c'est une nouvelle conception qui vient de Marie, et c'est bien l'acte de foi de Marie qui, par son terme, produit cela. Et conçoit quoi ? Conçoit l'unité sponsale entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Les deux ne font qu'une seule chair glorieuse. Et se trouve ainsi réalisée la grande prophétie du livre de la Genèse. L'homme quittera son père, ça c'est ça pour toi parce que tout le monde sait ça ici. L'homme quittera son père, chapitre 1 de la Genèse, ou 2, je ne sais plus. Bon, la honte. Qui se peut me dire si c'est le 1 ou le 2 ? L'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à chapitre 2, je crois. Oui, c'est ça. Chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, à son épouse, et les deux ne feront qu'une seule chair. L'homme quittera son père, donc incarnation, et sa mère, première nativité par l'acte de foi de Marie, et sa mère, deuxième nativité à la croix, quitte sa mère, à l'ascension aussi, s'attachera à sa femme, résurrection, il s'attache à sa femme, transverbération, il s'attache à sa femme. Et les deux, donc charité fraternelle, Pentecôte, ne feront qu'une seule chair, Assomption. Vous avez les cinq nativités en vertu des cinq grands actes de foi de la maternité divine de Marie. Parce que l'homme quittera son père, c'est bien quand le père, le fils, hein, et sa mère, c'est à la croix qui dit. Et ça devient sa femme, ça devient l'épouse. Il dit femme, il dit plus mère. Il s'attachera à sa femme, donc c'est la résurrection. Et les deux, c'est la charité fraternelle, la Pentecôte, ne font qu'une seule chair. Ben voilà, ça y est. La femme et le nouvel Adam font une seule chair glorieuse. Mais du coup, quand ils font une seule chair glorieuse, c'est une unité sponsale, ça. Il y a un fruit à ça. C'est quoi le fruit ? Ça produit quoi ? La Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem céleste qui va être le fruit de cette conception. Et donc, chapitre 21 et 22, lisez surtout ça, n'est-ce pas, pour comprendre ça, parce que tout se termine là, et ça c'est notre cause finale, c'est la cause finale de notre foi, de notre espérance, de notre charité. C'est ça qu'on doit vivre en premier, si je puis dire. De la nativité finale de la Jérusalem céleste. Oui. À la fabrication, recréation d'un ciel nouveau, d'une nouvelle terre. Le premier ciel, en effet, si beau qu'il fut, la charité de Marie, si quasi infinie. Et la première terre, si pure, si immaculée qu'elle fut, la sainteté absolument parfaite, brûlée par le mystère de la résurrection du Christ. Il n'y en a plus, disparu. Et demain, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte. Alors, je vis la cité sainte. Vous voyez, la conception, et tout de suite, Saint Jean voit donc le fruit. Le fruit, c'est la cité sainte qui apparaît, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, c'est pour nous. On reçoit la Jérusalem céleste qui est le fruit de l'unité glorieuse de Jésus ressuscité d'entre les morts, brûlant l'Esprit Saint, et de l'Immaculée Conception dans une seule chair glorieuse avec lui, brûlée par l'Esprit Saint. Ce jaune et ce bleu extraordinaire se mélangent et ça prend pour nous une couleur particulière, verdâtre, magnifique. C'est la Jérusalem céleste. Et elle vient d'auprès de Dieu, vers nous, elle nous apparaît, nous la recevons. Et c'est notre identité chrétienne, ça. Notre identité chrétienne principale. Comment est-ce que tu t'appelles, Jérusalem céleste? C'est mon nom. Elle descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Le trône, c'est le Père, la présence du Père. La voix, c'est la présence. Quand vous avez une voix, hein, quand vous êtes un enfant, la nuit, vous croyez être complètement perdu, vous vous tournez vers le mur, il y a le mur. Bon, vous vous retournez, vous avez l'impression que vous êtes retourné de l'autre côté, mais en fait, vous êtes toujours du même côté. Ah, un mur aussi de ce côté. C'est enfermé, les murs partout. Je suis seul, je suis enfermé, je suis dans l'obscurité, tout ça. Vous criez. Ah, la voix de la mère se fait entendre. Elle dit, je suis là. Dès que vous entendez sa voix, elle est présente. Une présence, la voix, c'est la présence. Et la présence qui est sur le trône. Le trône, c'est celui qui principe de tout. Princeps. Le principe, c'est le Père. La présence du Père. La voix du Père. Donc, j'entendis alors une voix clamée du trône. À ce moment-là, la présence du Père est criante. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Voici, vois ici la demeure de Dieu avec les hommes. Il, c'est-à-dire Dieu, aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclare, voici que je fais, que je crée toute chose nouvelle. Que je crée l'univers nouveau. Puis il ajouta, écrit, ces paroles
sont certaines et vraies certitudes de la foi, les vérités incréées et incarnées, en tant que fruit de l'acte foi. Certaines, c'est l'acte foi, et vérité incréée et incarnée, c'est son fruit. Et c'est notre acte de foi, nous, là, cette fois-ci avec Marie-Reine, c'est que Dieu va recréer tout l'univers, glorification de tout, le cosmos. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Vous voyez, il faut vivre de la finalité. Et pas vivre de ce qu'on vit, c'est tout. Si on vit de ce qu'on vit, on vit la cause efficiente, c'est tout. Celui qui a soif d'espérance. Alors, moi, je lui donnerai la source de vie gratuitement. La source de vie, c'est lui qui est source de vie. Source du Verbe. Source avec le Verbe incarné de l'Esprit Saint. La vie en Dieu, c'est une vie lumineuse d'amour. Et qui est source de ça? C'est le Père. Et tu deviendras comme le Dieu, quoi. Et source de vie. Gratis. On n'a pas mérité. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, les médiums, quoi, les magiciens, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, l'un des sept anges aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux s'en va me dire, viens que je te montre l'épouse de l'agneau. À partir de là, on revient pour voir à partir du Père. Cette unité sponsale entre l'épouse, l'immaculée, et l'agneau de Dieu, Jésus, ressuscité d'entre les morts, brûlant dans l'Esprit Saint, et l'épouse qui lui est intégrée dans l'unité glorieuse, parce qu'elle est brûlée par l'Esprit Saint. Et les deux sont une brûlure de l'Esprit Saint dans l'humanité intégrale de l'unité sponsale. Alors du coup, les sept dimensions de l'homme jaillissent en faisceau, une brûlure de l'Esprit Saint sous sept formes, ces sept dons du Saint-Esprit, resplendissant à l'infini et substantiellement dans notre corps ressuscité, déjà dans leur corps ressuscité, dans l'incréé au ciel, qui sera notre vie au ciel, ça. Oui, sept coupes remplies des sept derniers jours. Viens que je te montre l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc spirituellement sur une montagne de très grande hauteur, de grande hauteur, et me montra la cité sainte qui sort de là, vers tout, à partir du d'en haut. Elle descendait du ciel d'auprès de Dieu, avec à l'intérieur d'elle la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la rencontre du Père et du Fils pour produire l'Esprit Saint. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur pourvu de 12 portes. C'est-à-dire 7 comme les 7 dons du Saint-Esprit, et 5 comme toutes les nativités de la Vierge assemblées dans une seule éternelle nativité. Maternité, c'est ce qu'on appelle la royauté. Ça fait 12 en tout. Parce que Marie et l'Esprit Saint sont épousés. C'est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est en puissance dans son immaculée conception finale. Elle est en puissance parce que l'Esprit Saint est en acte. C'est là qui
C'est l'Esprit Saint qui active tout ce que l'Immaculée Conception, dans son terme final, est en puissance. Le seul, c'est ça qui se passe ici. Et c'est ce qu'on a là, 12 portes, près desquelles il y a les 12 messagers et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Grâce à ça, toutes les parties de l'univers sont prises par 3 portes, c'est-à-dire par des limites qui sont prises par 3, c'est-à-dire par l'amour fulgurant de la Très Sainte Trinité, de tous les coins de l'univers. Et les portes, vous savez, c'est les limites. Dès qu'on a une pauvreté, c'est une limite. Dès qu'on a une souffrance, c'est une limite. Dès qu'on a une plaie, c'est une porte. Je suis la porte du ciel, c'est la blessure du cœur. C'est la croix. Je vous apprends rien. Le rempart de la ville repose sur 12 assises. Il y a 12 fondements, ça. Portant chacune le nom d'un des 12 apôtres de l'agneau. Jude. Jude. Saint Jude. C'est marqué dessus. Là, ce serait une très belle chose de regarder, faire une espèce de théologie des noms des 12 apôtres en hébreu, pour voir ce que ça signifie comme fondement qu'il y a derrière. Ce serait magnifique. On fera peut-être l'année prochaine, tu sais. Oui. Ah, c'est. Bah, lisez-le, quoi. Vraiment, on va pas jeter, parce que 6h déjà, c'est l'heure du chapelet. Mais on va continuer. Il nous reste encore un petit moment demain, je crois. Une petite heure demain. Et nous allons continuer à voir cette maternité. Mais vous voyez que le mode de cette dernière maternité, qui fait passer de la dormition à l'assomption, est un mode tout à fait extraordinaire, qui n'a plus rien à voir, qui se termine cette fois-ci tout à fait dans l'incréé. Le terme de cet acte de foi, alors là, il est dans l'incréé absolument, totalement, puisque même son mode est déjà dans l'incréé. Tandis que la première maternité divine de Marie, son mode était divin, il était quelque part dans l'incréé par son terme, mais par son mode, c'était, il procédait d'elle dans le temps. Remarquez, c'est bien, il procède quand même à la dormition d'elle dans le temps, son acte de foi, évidemment. Mais quand même, cette traversée fait que son acte de foi se termine déjà dans l'incréé. Enfin, l'incréé est complète puisqu'il disparaît. C'est le dernier acte de foi qui la met en affinité avec la charité brûlante de Jésus. Alors, le voile disparaît et elle rentre dans la vision béatifique. La lumière de gloire. Ça, c'est une maternité tout à fait incroyable, tout à fait extraordinaire, qui produit cette semence, ce germe, cette conception de la Jérusalem céleste. Et voilà, et maintenant, il faudrait donc voir, et c'est peut-être qu'on verra en dernier, qu'est-ce qui se passe dans cette dernière immense et grande modalité qui rassemble les 5 modalités de la maternité divine de Marie, dans son assomption, et qu'on appelle la royauté, la fécondité glorieuse de Marie au ciel avec son corps, sa royauté. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Elle conçoit comment? Oui, l'acte de foi qui permet cette conception. N'est-ce pas? Oui, le sujet, le fondement. Oui, le terme. Terminant, où est le terme ultime? Marie-Reine, hein? Et c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois.